n'aurais jamais imaginé ça à l'Alpe d'Huez.
Fou de bonheur, Laurent Gerhardt, 198 km d'échappée. Bravo et merci.
Nasser Bouhanni, Arnaud démarre ou Nasser Bouhanni, Bouhanni démarre de Nasser Bouhanni est le nouveau champion de France.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur LNC Radio pour la première émission de la Ligue Nationale de Cyclisme consacrée à tous les aspects de la petite reine. Durant la prochaine heure, nous évoquerons plusieurs sujets avec nos invités. En premier lieu, les championnats de France de l'Anilis. Nous reviendrons sur les courses féminines et amateurs. Puis nous nous projetterons sur la course professionnelle de demain avant d'évoquer l'impact des championnats sur la ville organisatrice. Nous enchaînerons bien évidemment avec le Tour de France. À une semaine du grand départ en Corse, Christopher Froome, le coureur de la formation Sky, fait office de grandissime favori. Est-il imbattable? La Saxo Bank d'Alberto Contador peut-elle rivaliser avec l'équipe britannique? Que peuvent espérer les coureurs français? Nos spécialistes répondront à ces questions et à bien d'autres. Mais en France, il n'y a pas seulement la grande boucle. Le calendrier français est très chargé, avec notamment les manches de Coupe de France. Nous ferons un point sur les classements. Qui a encore des chances de remporter la Coupe de France? Qui sont les jeunes pousses qui se sont révélées et sur qui il faudra compter à l'avenir? Nos spécialistes débattront en direct. Et puis, nous terminerons cette émission avec un sujet sur la formation française. Pourquoi depuis plusieurs années les jeunes français s'adaptent très facilement au haut niveau? Pour quelles raisons la formation française est très efficace? Pourquoi les jeunes sont plus décomplexés qu'auparavant? Explication à la fin de cette émission. Vous l'aurez donc compris, au programme des analyses techniques, des débats, mais surtout du cyclisme. Et pour en parler avec nous, Stéphane Hello, manager général de Sojasin, sera là tout à l'heure. Thierry Gouvenou, membre d'ASO et représentant du rassemblement des organisateurs de courses cyclistes à la LNC. Vincent Lavenu, manager général d'AG2R La Mondiale et représentant de l'association des groupes cyclistes professionnels. Yvon Sanquer, manager général de l'équipe Cofidis Solutions Crédit. Frédéric Rostin, qui occupe le même poste à la Pomme Marseille. Et Daniel Monjas, speaker officiel du Tour de France et de bien d'autres courses. Nous aurons également le plaisir d'accueillir avec nous Jean-Luc Pernet de la course Châteauroux Classique de l'Inde et représentant du rassemblement des organisateurs de courses cyclistes. Dominique Serrano du Grand Prix de Denain et vice-président du rassemblement des organisateurs de courses cyclistes. Alain Clouet de Tours Poitou-Charentes et secrétaire général de la LNC. Nous recevrons également Pascal Chanteur, président du syndicat des coureurs cyclistes, l'UNCP, l'Union nationale des cyclistes professionnels, ainsi que Xavier Jean, trésorier de la Ligue et vice-président de l'Union nationale des cyclistes professionnels, ancien professionnel et actuel ostéopathe de Sojasin Espoir. Vous pouvez poser vos questions en laissant un commentaire sur le site lncpro.fr ou sur velowire.com/lncradio. Vous pouvez également nous contacter sur Twitter sur @velowire.com. Un grand merci au Cube Café d'Olivier Berthelot et de Renato Bisson, à André Lesven, maire de Plouguerneau, qui nous accueille aujourd'hui, ainsi qu'à Cédric Levkovitch pour notre jingle. Et à ne pas oublier à la fin de cette émission, le tirage au sort pour emporter le vélo Rockrider 5.1 qui comporte un groupe Shimano d'une valeur de 400 €, auquel s'ajoute un maillot PMU, maillot vert du Tour de France PMU, ainsi qu'une gourde PMU. Et pour terminer, un bon d'achat de 100 € pour des accessoires cyclistes dans un grand magasin de sport.
On commence bien évidemment avec les championnats de France de cyclisme qui ont débuté ce jeudi à l'Anilis au nord-est de Brest avec les épreuves de contre-la-montre. Il n'est donc pas surprenant de voir dans le circuit des épreuves en ligne la présence d'un ribbin, un chemin de terre comme ceux qu'on voit régulièrement présents sur le parcours du Trobo-et-Léon qui a tous les ans lieu ici à la mi-avril. Et ces épreuves en ligne ont commencé aujourd'hui justement pour les dames et les amateurs, tandis que demain, les professionnels se joueront le titre de champion de France. Pour parler de tout cela, nous avons avec nous nos premiers invités, qui sont les managers de différentes équipes. Donc, tout d'abord, Vincent Lavenu pour l'équipe AG2R La Mondiale. Nous avons également Yvon Sanquer pour l'équipe Cofidis. Et nous aurons probablement, si dans la mesure du possible, Stéphane Hello pour l'équipe Sojasun. Mais d'abord, nous allons regarder les résultats des courses du jour. Alors, Plouguerneau a vu passer cet après-midi les coureurs amateurs qui ont effectué 9 tours du circuit de 19,35 km. Et oui, on aime la précision. Pour arriver à une distance totale d'un peu plus de 174 km. On a vu une course très animée. Et en toute fin d'après-midi, c'est Cédric de la Place de Sojasun Espoir qui a succédé à Jimmy Rebaud pour le titre de champion de France amateur. Alors, comment s'est passée la course? Ils se sont retrouvés à l'avant à plusieurs dans la deuxième partie de la course. Dans un petit groupe avec notamment Yann Guyot de l'Armée de Terre, Clément Saint-Martin de Océan Top 16 et Romain Guillemois de Vendée U. Et c'est à peu près à 1,5 km de l'arrivée que Cédric Delaplace a contré Clément Saint-Martin qui était sorti quelques hectomètres plus tôt. En fait, on s'attendait pas vraiment à voir ces coureurs-là à l'avant. Qu'est-ce que vous avez pensé de la course? Est-ce que vous avez eu des infos de la course? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous attendiez à ce que la course se passe comme ça, Vincent Lavenu?
Bah, c'est un circuit qui, par définition, est assez ouvert au niveau du peloton. Je crois qu'il peut convenir à pas mal de types de coureurs. Pas des purs grimpeurs, mais pas forcément non plus à des purs sprinteurs. Donc ça veut dire qu'il y a une bonne majorité des coureurs qui sont notamment assez puissants et assez punchers qui peuvent envisager de remporter la course. Ce qui est certain, c'est que la course s'est dessinée quand même très tôt, avec une grosse bagarre, avec beaucoup de mouvements à l'avant. Et finalement, les coureurs qui l'ont emporté sont quand même des garçons qui n'ont pas attendu le final, mais qui ont osé aller de l'avant très tôt.
Et est-ce que c'est le parcours qui a permis à ces coureurs de partir très tôt, ou est-ce que c'est plutôt le contexte de la course qui a fait que ces coureurs ont pu aller se jouer la victoire à la fin?
Ben, je crois que le parcours y est pour beaucoup. Le vent aussi, puisque le vent a quand même un rôle important. On a vu des petits coups de bordure, des cassures dans le peloton à un moment donné. Le ribbing, évidemment, a porté aussi également ses fruits. Il y a un passage, le ribbing, mais il est quand même assez difficile. Donc je crois que les coureurs, et puis après c'est la volonté des coureurs et l'envie de bouger des coureurs qui a fait que, voilà, ça, il y a une course assez décousue. Finalement, ça a donné un très très beau résultat et une belle course.
Et vous, Yvon Sancœur, vous pensez la même chose que Vincent Lavenu, ou vous avez un avis plutôt différent?
Non, je rejoins Vincent. Le parcours, bien entendu, également le vent qui a joué une importance. Et puis surtout, une course débridée qui a durci ce championnat et permis aux coureurs attaquants d'aller jusqu'au bout.
Et vous, Frédéric Rostin, vous aviez l'habitude à l'époque de suivre les courses amateurs, maintenant plutôt chez les professionnels avec la Pomme Marseille. Est-ce que vous vous attendiez à une course de ce type chez les amateurs avec une échappée qui se dessine très loin de l'arrivée?
Ben, il y a toujours des courses débridées chez les amateurs. Il y a un circuit qui est difficile et c'est un schéma prévisible. Et bon, ça a donné un aperçu aussi de la difficulté du parcours qui, avec une course sûrement un peu plus contenue chez demain, mais c'est vrai que c'est, on voit beaucoup ce genre de schéma en amateur, beaucoup plus que chez les professionnels.
Et justement, ce résultat et la façon dont s'est déroulée la course, est-ce que ça vous a donné des idées pour demain? Est-ce que ça va influencer votre stratégie de course?
Ben nous, notre stratégie de course, c'est les grosses équipes qui la dictent. On est donc 8 coureurs au départ, on n'est pas Pro Tour ni Continental Pro. Donc on est une petite cote, entre guillemets, et il y a quelques coureurs en forme aujourd'hui. Pour nous, c'est plus jouer en fonction de l'opportunisme et des situations. Voilà. On n'a pas la capacité aujourd'hui à maîtriser une course comme certains ont vraiment une stratégie pour amener les courses dans les meilleures conditions qui leur seront favorables pour le meilleur résultat, quoi.
Effectivement, pour ceux qui nous écoutent à distance, Frédéric Rostin, qui représente donc l'équipe La Pomme Marseille, parce qu'il nous a rejoint un petit peu plus tard à cause d'un problème de trafic. Vincent Lavenu, pour vous, le déroulé de la course, est-ce que pour vous, ça a changé quelque chose dans la stratégie que vous allez adopter demain?
Ben, c'est toujours intéressant de venir voir ce qui se passe chez les amateurs, parce que je pense que derrière, comme le disait Frédéric tout à l'heure, le schéma est jamais très très loin, très lointain. Si ce n'est que chez les professionnels, les grosses équipes sont fournies de nombreux coureurs et qu'effectivement, ça peut influer sur la tactique de course. Mais malgré tout, on s'inspire de la course de la veille chez les amateurs pour affiner la tactique du lendemain.
Est-ce que vous avez parlé à des coureurs de Chambéry Cyclisme Formation, l'équipe réserve de AG2R La Mondiale, afin d'avoir un peu des renseignements sur notamment le ribbing ou sur comment se déroule la course?
Non, on n'a pas eu le temps parce qu'il fallait être là à l'heure. Donc on n'a pas eu le temps de parler ça avec eux, mais on a observé la course telle qu'elle s'est déroulée. Pas seulement mes coureurs réserves, mais tout ce qui s'est passé à l'avant. Ce qui est certain qu'il y a une course de mouvement et je pense que demain, ce sera un peu le même type de course qu'il y aura.
Ben merci. Maintenant, on va passer au championnat de France dames qui s'est déroulé ce matin, un peu plus tôt dans la journée. Et c'est Élise Delzen de Bourgogne Pro Dialogue qui s'est imposée sur les 116,1 km de course. La coureuse de Bourgogne Pro Dialogue a lancé son sprint à 200 mètres de la ligne après avoir suivi notamment Pauline Ferrand-Prévot et Christelle Farrier-Bruneau qui ont décidé de suivre Audrey Cordon qui, elle, a tenté de faire le kilomètre. Donc Élise Delzen succède à Marion Rousse qui avait battu l'année dernière Julie Krasniak. Est-ce que vous attendiez à une victoire d'une fille comme Élise Delzen de Bourgogne Pro Dialogue? Parce qu'on attendait, c'est vrai, un peu plus Pauline Ferrand-Prévot ou Christelle Farrier-Bruneau, Aude Bianic, la régionale de l'étape, plutôt. Donc, est-ce que vous êtes surprise un peu de la victoire de Élise Delzen, Frédéric Rostin?
C'est une... Personnellement, on suit un petit peu avec distance ce qui se fait au niveau du cyclisme féminin. En toute honnêteté, on s'y penche peut-être de manière moins attentive. Cela dit, il y a eu aussi un schéma relativement débridé avec il n'y a pas d'arrivée groupée. C'est un nouveau nom. Je pense que c'est une surprise quand même. Ferrier-Bruneau et Pauline Ferrand-Prévot étaient aussi devant. Donc c'est un joker qui a gagné. Une joker, entre guillemets. Ça, c'est un schéma qu'on aimerait bien qu'il se produise demain quoi, pour nous.
Et vous, Yvon Sanquer, un coureur amateur qui gagne, c'est plutôt une surprise concernant le championnat de France. Chez les dames, c'est la même chose. Est-ce qu'on peut s'attendre à une surprise également demain?
Je ne sais pas, mais je pense qu'en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est un petit peu le même type de schéma de course. Une course très ouverte, avec un circuit qui est dur. On voit bien qu'il y a des dégâts. Et je pense que demain, on sera un petit peu sur le même type de profil d'épreuve. Même si, comme le disaient Vincent et Frédéric, c'est vrai que la présence d'équipes à fort effectif, on fait que la course est un petit peu plus cadenassée, mais je pense que le parcours et le temps vont permettre d'ouvrir cette course et de donner la place, pleine place aux attaquants.
Et rappelons que Élise Delzen aura l'occasion de montrer pour la première fois son maillot de championne de France à Loudun la semaine prochaine, dimanche, lors de la finale de Coupe de France. Comme on vous le disait en introduction de ce sujet, les championnats ont commencé ce jeudi par les épreuves de contre-la-montre. Donc l'année dernière, on a vu Pauline Ferrand-Prévot qui avait remporté le contre-la-montre à Saint-Amand-les-Eaux, sous les eaux, aussi bien dans la catégorie espoir et élite. C'est peut-être l'occasion d'évoquer la particularité des championnats de France pour dames. Je ne sais pas si vous le connaissez, Yvon Sanquer. Qu'est-ce qui se passe dans les courses dames qui est de particulier en ce qui concerne les classes, enfin élite et espoir?
Elles doivent courir ensemble.
Effectivement, je vais vous aider un petit peu peut-être. Elles doivent courir ensemble et en fait, en gros, c'est une seule course qui est établie à la fin, donc deux classements. Bon, donc effectivement, il y a deux classements qui sont établis aussi bien dans la catégorie élite et pour un titre de championne espoir pour les moins de 23 ans.
Donc finalement, j'ai pas tout perdu au niveau de la réglementation.
Effectivement, je pense que vous allez continuer pour le frigo. Merci beaucoup.
Donc, c'est connu en fille.
Cette année, Pauline Ferrand-Prévot de l'équipe néerlandaise Rabobank nous a livré exactement la même prestation. Elle a devancé Audrey Cordon de l'équipe Vienne Futuroscope de 20 secondes et Mélodie Le Sueur de Big Matober 93 de 1 minute et 2 secondes. Ce n'est donc pas la pluie, parce que rappelons que cette course s'est déroulée sous la pluie, qui a pu empêcher Pauline Ferrand-Prévot de nous montrer encore une belle performance. Et avec ses 21 ans, elle prend donc également à nouveau la première place dans la catégorie espoir. Et dans ce classement, qui est donc établi dans la même course, elle a devancé Lucie Pader de Bourgogne Pro Dialogue et Aude Bianic, qui courait presque à la maison, parce que rappelons qu'elle est originaire de Landivisiau, qui est à seulement 40 km à l'est d'ici. Chez les hommes, il n'y a pas eu de changement non plus. Est-ce que vous vous attendiez à ce que ce soit à nouveau Sylvain Chavanel qui remporte la course, Vincent Lavenu?
Ben, je crois que Sylvain, effectivement, est un... C'était le favori au début de ce championnat. Et non seulement il a assumé son rôle de favori, mais il a écrasé la course, puisque gagner un championnat de France avec plus de 2 minutes d'avance sur le second, ça montre sa domination. Et si on regarde bien le classement derrière, tous les autres coureurs sont finalement très proches. Il y a 7 ou 8 coureurs qui se tiennent à peu près en 40 secondes. Voilà, donc Sylvain a vraiment dominé de la tête et des épaules ce championnat. C'est pas vraiment une surprise. C'est un parcours qui lui convenait parfaitement. C'est un parcours d'homme puissant. Et je pense que Sylvain est le parfait exemple de coureur puissant en France.
Ouais, comme vous le dites, il a littéralement écrasé la course contre la montre. Il a terminé en 56 minutes 48 secondes. Et c'était plus de 2 minutes plus rapide que Jérémy Roy de l'équipe FDJ, qui à la base venait quand même aussi pour, avec l'espoir de gagner le titre de champion de France. Jérémy Roy, il monte, ça fait quelques années qu'il se concentre sur les contre-la-montre. Est-ce que vous pensez qu'un jour, Jérémy pourrait être champion de France en contre-la-montre ?
Oui, tout à fait, puisqu'il a démontré par le passé, que ce soit sur les championnats ou dans d'autres chronos d'ailleurs, dans certaines courses par étapes, qu'il était au niveau des meilleurs, quelquefois même tout proche des meilleurs mondiaux dans certaines circonstances. Donc avec évidemment une bonne journée, un bon parcours qui lui convient, une bonne préparation de l'épreuve, je pense qu'il peut tout à fait envisager d'être champion de France. Il est monté déjà sur le podium, voilà. Bon, même si cette année Chavanel a vraiment dominé, il a montré par le passé qu'il pouvait être très proche de la première place.
Ouais, tout à fait, et donc la troisième place c'était aussi sur le podium, c'était aussi pour un coureur de l'équipe FDJ, donc de Marc Madiot, pour qui nous avons une petite pensée ce soir puisqu'il ne peut malheureusement pas être avec nous pour des raisons personnelles. Donc le troisième coureur sur le podium c'était Johan Lebon, qui terminait avec un retard de 2 minutes 20 sur Chavanel.
Et Yvon Sancar, est-ce que vous pensez qu'un coureur comme Thibaut Pinot, qui espère jouer une bonne place au classement général sur le Tour de France, aurait dû participer à un chrono aussi long, en vue notamment des contre-la-montre de la Grande Boucle ?
Je pense que ça dépend un petit peu des programmations de chacun par rapport à la préparation du prochain Tour de France. Je pense que Thibaut va surtout faire valoir ses qualités de grimpeur. On sait maintenant que sur les deux chronos individuels, il y a quand même un chrono qui sera favorable vraiment aux grimpeurs. Et bon, après, je dirais que c'est quand même la programmation de la participation au championnat de chrono. Ça s'intègre dans une préparation générale au Tour de France. Donc là, je dirais qu'il n'y a pas de règles. Il n'y a pas de règles.
Et vous, Frédéric Rostin, est-ce que vous auriez fait le même choix que Yvon Sancœur ? Est-ce que vous auriez laissé place plutôt à l'envie du coureur ? Ou est-ce que vous auriez mis Thibaut Pinot sur le contre-la-montre pour le préparer ?
Je pense que Thibaut Pinot a autour de lui un environnement qui le place dans les meilleures conditions et qu'il connaît très bien. Et donc je pense que la meilleure des choses, c'est qu'ils ont sûrement pris la meilleure décision en ce qui concerne Thibaut. Je partage tout à fait l'avis d'Yvon. S'il y a un tour où encore la montagne va être un terrain prépondérant, un contre-la-montre à Chorges qui est très dur. C'est des terrains d'excellence pour Thibaut Pinot et où il peut se poster dans les meilleures conditions sur ce Tour de France.
D'ailleurs, on parlait tout à l'heure donc du résultat du contre-la-montre avec Sylvain Chavanel qui obtient la victoire. On rappelle qu'il obtient avec ça non seulement la victoire et le titre de champion de France pour cette année, mais aussi un nouveau record, celui d'avoir remporté 5 fois les championnats de France en contre-la-montre. Après les années 2005, 2006, 2008 et 2012, là où Eddie Senior n'en avait obtenu que, et vous ne voyez pas à la radio les guillemets, mais je l'aimais bien, que 4 victoires. Donc Chavanel aura l'occasion de porter sa combinaison bleu-blanc-rouge sur le Tour de France qui commence la semaine prochaine lors des contre-la-montre pour l'équipe Omega Pharma Quick-Step, par exemple dans le magnifique décor du Mont-Saint-Michel.
Le championnat de France, c'est quand même vraiment une course particulière parce qu'au bout, il y a un maillot bleu-blanc-rouge et seul le vainqueur peut le porter pendant toute une année. Alors certes, il y a des leaders, des coureurs protégés, mais tout le monde espère secrètement devenir champion de France au risque parfois d'oublier les consignes du directeur sportif. Alors Vincent Lavenue, est-ce qu'on peut dire réellement que le championnat de France est une course par équipe ou c'est au final un peu une course individuelle ?
Les deux, parce que c'est vrai que, vous l'avez dit, c'est une course qui a vraiment un parfum particulier. Je crois qu'elle fait rêver tout le monde, qu'elle fait rêver tous les coureurs, bien sûr. Elle fait rêver toutes les équipes, tout l'encadrement. Je crois que c'est une ambiance familiale, conviviale. Donc, il y a beaucoup de supporters. Donc, ici, surtout sur les terres bretonnes, on sait que les Bretons aiment beaucoup le vélo. Et donc, je pense qu'il y aura une ambiance très chaude. Donc, voilà. Donc, je crois que chacun vient avec beaucoup d'envie. Et c'est vrai que secrètement, même s'il y a des stratégies d'équipe qui sont clairement établies, il y a toujours quelques coureurs qui espèrent à un moment donné tirer le bon numéro, avoir la bonne opportunité, tirer les marrons du feu. Donc tout est mélangé, on va dire. La stratégie d'équipe doit être respectée, ce sont des coureurs professionnels. Il y a des objectifs bien précis, mais aussi derrière il y a des envies et des objectifs aussi individuels qui peuvent ressortir à un moment donné ou à un autre.
Alors, Yvon Sancaire, quand on est directeur sportif d'une grande équipe comme Cofidis, est-ce que le briefing avant les championnats de France est différent des autres courses, vu que c'est une course vraiment particulière avec un maillot tricolore au bout ?
C'est vrai que c'est un moment, comme le dit Vincent, un peu particulier dans une saison, hein, qui revêt quand même beaucoup d'importance pour les coureurs à titre individuel et aussi beaucoup d'importance pour les équipes. Maintenant, c'est vrai que malgré tout, on reste attaché au collectif. Et le collectif sert aussi à aller chercher les victoires individuelles. Maintenant, c'est vrai que peut-être ce jour-là, il y a une petite part d'improvisation qui peut se glisser dans la stratégie. Et un coureur, on sait, il y a des coureurs de championnat qui peuvent être habiles. Et le moment venu, forcer un petit peu le destin, même si c'est par rapport un petit peu en marge d'une stratégie d'équipe. Bon, le tout, c'est que ça reste cohérent par rapport aux équipiers et qu'il n'y ait pas quelque chose, un mal-être sur une victoire dans un championnat de France.
Et vous êtes d'accord avec ces propos, Frédéric Rostin ?
Disons que c'est une course d'un jour qui se situe quasiment à la moitié de la saison. Et donc, il y a un titre de champion de France, il y a un coureur qui va endosser un maillot. Après, si ça doit semer la zizanie dans l'équipe, c'est sûr que c'est compliqué. Mais a priori, quand il y a du bonheur, quand il y a du champagne qui coule dans une équipe, ça aide à rassembler. Donc, puis derrière, pour les grosses écuries, il y a le Tour de France derrière. Participer à un Tour de France avec un maillot bleu, blanc, rouge sur les épaules, c'est déjà un Tour de France en partie réussi. Donc, je pense que c'est une course à part.
Et tout à l'heure, on parlait du parcours et notamment de la particularité avec les ribines sur ce parcours cette année. Justement, le choix du parcours peut être très important dans le déroulé des championnats de France parce que ça peut potentiellement influencer largement le type de coureur qui peut prétendre au titre. Cette année, on est présent au Pays des Abers et à Plouguerneau. Ici, on en est au plein cœur. On est donc ravis de recevoir avec nous Monsieur André Lesven, le maire de Plouguerneau. Monsieur Lesven, c'est l'Anilis qui a réussi à obtenir les championnats de France cette année. Vous vous êtes naturellement associé à ces championnats, en ouvrant vos routes au circuit emprunté par les courses en ligne. Qu'est-ce que pour vous, pour Plouguerneau, représentent ces championnats ?
Bien, tout d'abord, je voudrais vous dire que je suis très heureux de vous accueillir à Plouguerneau ce soir. Alors Plouguerneau, c'est vrai que c'est une terre bretonne qui est partagée entre la mer et la terre, puisque nous abritons notamment le phare le plus haut d'Europe et le deuxième du monde. Alors c'est vrai que c'est pas l'Anilis qui accueille les championnats, c'est la communauté de communes du Pays des Abers qui accueille le championnat. Alors bien sûr, c'est à l'Anilis, puisque l'organisation du Trobroléon se fait déjà à l'Anilis, donc il y a un savoir-faire. Donc, bien entendu, nous nous associons tous à cette belle fête du cyclisme. Alors, pour la petite anecdote, personnellement, j'aurais rêvé, quand j'avais 14 ans, d'être coureur cycliste. Mais bon, les choses se sont déroulées autrement, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai toujours voué au cyclisme une très grande attention. Et donc, je suis heureux que ce championnat de France ait lieu dans notre coin. Alors c'est vrai qu'on accueille ce championnat de France par un ribbing qui est situé, je le rappelle, sur Plouguerneau et non pas sur l'Anilis. Je suis désolé pour mes collègues d'à côté.
C'est important de le souligner.
Ils ont des départs, ils ont des arrivées, donc ils ont suffisamment comme ça. Donc c'est vrai que ce ribbing, on en parle beaucoup. C'est vrai que c'est un endroit particulier. Maintenant, je crois que ribine ou pas ribine, je crois que c'est la force de chacun des cyclistes qui fera qu'il sera champion de France ou pas.
Et justement, vous parlez du ribine, il est situé sur la terre de la commune de Plouguerneau. Pour vous, en fait, aujourd'hui, un ribine, ça se maintient, ça se garde, ça se sauvegarde. Qu'est-ce que ça représente pour vous ou pour la Bretagne en particulier ?
Bien sûr que ça se maintient. On ne peut pas mettre du goudron partout. Hein. Je crois qu'il faut essayer de garder un petit peu de naturel, même si les habitants préfèrent que toute leur route soit bien goudronnée. Mais au moins, ça fait aussi le charme. Hein. Ça, plus les terrains, enfin les sentiers de randonnée qui, eux, ne sont pas non plus goudronnés. Et je crois qu'il faut savoir conserver tout ce patrimoine, entre guillemets, quelque part.
D'accord. Et aujourd'hui, le passage des championnats de France, donc c'est 3 jours, le jeudi, samedi, dimanche. Est-ce que pour vous, vous pensez que ça a un impact touristique, médiatique, sur le long terme ou juste ces 3 jours?
Alors, je ne vais pas vous dire le contraire, que ça a un impact touristique, puisque je suis en plus le président de l'Office du tourisme communautaire. Donc, je crois que c'est vrai que ça a un impact. Plus on fera parler du pays des Abers, mieux ce sera. Donc, en plus, dans de belles circonstances comme celle-là, c'est encore mieux. Je crois que le sport véhicule aussi beaucoup de valeurs, bien que certains puissent à des moments donnés décrier tel ou tel sport. Mais je pense que là, on a affaire quand même à des gens qui se donnent, qui montrent leur envie de se battre, de présenter à la population quelque chose de beau. Donc je crois qu'il faut, apprendre à les soutenir, à véhiculer un petit peu tout ce qu'ils transportent de sportif en eux.
En tout cas, moi je suis heureux d'être ici et je vous remercie beaucoup de votre accueil ici sur la commune de Plouverneau.
Merci.
Place désormais au Tour de France. Dans une semaine, la 100e édition de la Grande Boucle s'élancera de Corse. Une première dans l'histoire de l'épreuve. Le Tour de France est le 3e événement sportif le plus suivi dans le monde après les Jeux Olympiques et la Coupe du Monde de football. Mais contrairement à ces compétitions, l'épreuve organisée par ASO a lieu chaque année. Pour en parler avec nous, Thierry Gouvenou, ancien professionnel au sein des équipes Z, GAN, Big Mat Aubert 93 et 7e de Paris-Roubaix 2002 notamment. Thierry Gouvenou, vous êtes actuellement membre également de la société organisatrice du Tour de France, ASO, Amaury Sport Organisation, et aussi représentant du rassemblement des organisateurs de courses cyclistes à la LNC. Yvon Sanquer est aussi avec nous, il dirigera l'équipe Cofidis sur le prochain Tour de France. Nous avons aussi sur le plateau un homme qui a l'habitude d'être au micro, mais généralement c'est lui qui pose les questions, le speaker du Tour de France et de bien d'autres courses, Daniel Mangias. Et pour terminer, nous avons encore avec nous Vincent Lavenu, le manager général de l'équipe AG2R La Mondiale. Alors, la majorité des coureurs qui participeront au Tour de France, en tout cas pour les Français, sont engagés demain sur leur championnat national. Il ne restera plus qu'une semaine avant le grand départ de la Grande Boucle. Comment gère-t-on cette dernière semaine, Vincent Lavenu? Est-ce qu'on axe ces derniers jours sur la récupération ou faut-il tout de même quand même bien s'entraîner
Alors, je veux dire, quand on arrive sur le championnat de France, le travail est fait. D'ailleurs, le championnat de France est quand même une journée extrêmement exigeante, 250 km de course. Donc les coureurs qui sont là sont des garçons qui sont bien préparés, qui sont passés par des stages, des courses importantes. Et donc ceux qui auront la chance de participer au Tour de France sont d'ores et déjà à 98% de leur niveau sportif. Donc la semaine qui va rester sera une semaine, on va dire, pour se maintenir en forme, pour bien préparer le voyage, pour éviter d'arriver en Corse avec déficit de fatigue. Et donc c'est une gestion finalement assez facile pour arriver jusque sur la Corse.
Et comment, Yvon Sanquer, gère-t-on le déplacement entre Brest et la Corse, parce que les coureurs devront arriver en Corse mercredi, parce que jeudi il y a la présentation des équipes. Alors comment fait-on pour faire plus de 1000 km Comment gère-t-on au niveau de l'entraînement?
Aujourd'hui, c'est quand même relativement facile, hein. Il y a les avions, donc un petit peu de programmation et de planning, un peu de logistique avant, et les choses vont bien se passer. Effectivement, c'est une semaine de récupération où il faut recharger les accus. Après du travail qui a été emmagasiné bien en amont. Et comme le disait Vincent, ce qui est important, c'est de veiller à la récupération et à faire le plein d'énergie, parce qu'on sait tous que la première semaine du Tour, notamment, c'est surtout l'énergie qui part. Ça frotte beaucoup, c'est exigeant de ce point de vue-là, au-delà du physique.
Et est-ce que vous avez dit à vos coureurs qui feront le Tour de France, donc notamment les Français, Rudy Mollard, Jérôme Coppel, est-ce que vous leur avez demandé de faire plutôt attention sur le circuit qui est en plus très sinueux et très dangereux afin de ne pas se blesser?
Je crois que ce sont des professionnels et à la fois, bon, il faut rester prudent. Maintenant, on ne peut pas faire une fixation non plus sur les choses. Je crois que le circuit présente quelques difficultés, mais bon, on n'est pas non plus extrêmement dangereux. Donc je crois que, comme dans toute course, il faut à la fois faire attention, mais on ne peut pas avoir présent à l'esprit ces problèmes-là non plus en permanence.
On a beaucoup parlé déjà du parcours des championnats de France qui ont lieu actuellement. Parlons un petit peu du parcours du Tour de France. Donc cette année, on verra la centième édition du Tour de France. Ce n'est pas le centenaire, comme on peut le lire parfois, puisqu'on a eu l'occasion de le fêter sur les Champs-Élysées déjà le 27 juillet 2003. En 2013, c'est bien la centième édition, parce que pendant les deux périodes de guerre mondiale, le Tour n'a pas eu d'autre choix que de suspendre temporairement la fête populaire qu'il était déjà à l'époque. Thierry, vous faites partie du département compétition de la direction cyclisme de l'ASO, à Maurice Sport Organisation, et vous connaissez donc déjà par cœur le parcours du Tour qui prendra son envol depuis la Corse samedi prochain. Quelles sont les particularités de ce parcours, de ce centième Tour de France, si vous les résumez en quelques mots, Thierry ?
Bon, il y a deux aspects. Il y a l'aspect des paysages et des sites qu'on va traverser, et puis il y a l'aspect sportif. Moi, je connais quand même beaucoup mieux l'aspect sportif. L'aspect sportif, c'est déjà une première étape qui devrait se terminer au sprint, et ça n'a pas eu lieu depuis les années 60. Et on pense que pour une première fois depuis les années 60, le premier maillot jaune devrait être un sprinter. Et ça va quand même occasionner quand même pas mal de stress sur cette première étape. Je pense que des garçons comme Cavendish, Kittel, etc. vont quand même avoir une grosse pression cette première journée pour pouvoir enfin porter le maillot jaune. Et ça, c'est une occasion unique pour eux.
Ça risque d'être une course nerveuse la première étape. Les routes en Corse se sont adaptées à une étape de ce type.
C'est vrai que la première étape est très belle. Ça se déroule sur des nationales, donc c'est tout à fait propice à une arrivée au sprint. Ensuite, les deux étapes suivantes seront beaucoup plus piégeuses, et notamment la troisième où on traversera les Calanques de Piana. Et cette étape-là, on ne va pas gagner le Tour de France sur cette étape-là, mais on peut risquer de le perdre parce qu'il risque d'y avoir quand même pas mal de cassures avec toutes ces montées, ces descentes sur des routes quand même pas trop larges.
On a déjà beaucoup parlé de la Corse et on en parlera encore beaucoup plus dans les semaines à venir, je pense. Le Tour, il visitera pour la première fois en fait en son histoire les deux départements, on va dire, oubliés de la France métropolitaine, la Corse. Et il aura entièrement lieu en France. Est-ce que pour vous, en tant qu'organisateur, ne pas sortir, enfin vous me parlez effectivement plus des aspects sportifs, mais peut-être vous pouvez y répondre quand même, ne pas sortir des frontières de la France, c'est un point d'honneur pour le centième.
C'était une vraie volonté pour la centième de ne pas sortir de France. La dernière fois que ça avait eu lieu, c'était en 2003, et c'est vrai que pour fêter ce centenaire, c'était l'occasion unique de rester en France pendant tout le parcours. En plus de visiter la Corse pour la première fois aussi, ça apportera quand même une touche spéciale, et c'est important que tous les départements se sentent concernés par le Tour de France.
Ouais, tout à fait. Par contre, quand on regarde la carte du Tour de France, on a l'impression que les Pyrénées sont un peu snobées entre guillemets cette année. Est-ce que c'est un choix ?
Il ne faut pas oublier que déjà le départ sera un petit peu difficile. Après, on va arriver très vite dans les Pyrénées et on ne pouvait pas se permettre de faire trois grosses étapes dans les Pyrénées. Mais il ne faut quand même pas négliger le col de Payerne avec l'ascension d'Ax-Rodomaine. Déjà au soir d'Ax-Rodomaine, je pense que le classement général en aura pris une bonne direction. On saura déjà où sont les leaders.
Ouais, donc même déjà les Pyrénées, enfin à l'issue des Pyrénées, on saura déjà à peu près où va aller le classement général.
Ouais, sans aucun doute, ce sera confirmé ensuite par deux contre-la-montre qui seront très importants par la suite. Un premier contre-la-montre très plat entre Avranches et le Mont-Saint-Michel. Et un second qui devrait confirmer le classement entre Embrun et Chorges, où là, par contre, ce sera un contre-la-montre très difficile pour grimpeur.
D'accord. Donc ce contre-la-montre pour grimpeur. Par contre, globalement, je pense que Daniel Mangès, le Tour de France cette année, il est un petit peu moins montagneux qu'on a pu en avoir, et aussi beaucoup moins montagneux que peut-être d'autres grands tours.
Je vais intervenir avant. On a eu un souci, c'est qu'on a beaucoup trop de cols cette année. Donc il ne faut pas dire que ce n'est pas un tour montagneux. Il est très montagneux. Il faut faire attention aux apparences.
D'accord. Bon, on le regardera en détail encore à nouveau. Par contre, on voit quand même que ce parcours laisse aussi des opportunités aux baroudeurs et aux sprinteurs. Daniel Mangès, vous pensez qu'il y a des chances pour les sprinteurs sur ce Tour de France ? Qu'est-ce que vous pensez de ce parcours ?
J'écoutais ce que disait Thierry. C'est un avis que je partage parce que c'est vrai que les sprinteurs vont essayer le premier jour de prendre le maillot jaune. Ça va me rappeler un petit peu, moi, quand j'avais 7 ans, il y avait une étape qui partait de Nantes, qui arrivait à Granville, et qui avait vu André Darrigade, qui était le premier maillot jaune devant Jean Graxic et Joe Thomas, qui étaient avec nous cet après-midi. En revanche, le Tour de France sont les coureurs qui font la course, et c'est vrai que chaque tour est exaltant avec la grande fête de la France, et les coureurs viennent au départ avec l'ambition de se distinguer un jour ou l'autre. Certes, ils savent rapidement s'ils peuvent ou non gagner le Tour de France. Ils ne viennent pas toujours avec l'envie de gagner le Tour de France, mais surtout l'envie de s'y distinguer. Et chaque jour, et chaque course, chaque étape est une vraie classique. C'est la plus grande course du monde, c'est la plus belle fête du monde. Et à partir de là, bah, je pense qu'on aura des révélations, on aura des déceptions, des coureurs qui passeront travers, ça arrive toujours. Mais c'est vrai, les directeurs sportifs qui sont à mes côtés, managers, le savent. Il y a une tension palpable des coureurs à l'approche du Tour de France. 8 jours avant le Tour, ils sont déjà, même bien avant, dans le Tour de France, comme on peut le retrouver également à Paris-Roubaix, où il est carrément impossible de discuter avec un coureur la veille ou l'avant-veille de Paris-Roubaix, tant ils sont imprégnés de l'événement.
Vous insistez beaucoup sur le fait que les coureurs veulent se distinguer sur le Tour de France, parce que c'est quand même la plus grande course au monde. On peut se distinguer en prenant le premier maillot jaune. Un petit pronostic pour vous, le premier maillot jaune, ce sera qui cette année?
Premier maillot jaune, je vais pas prendre de risque, parce que j'ai 2 directeurs sportifs à mes côtés, je voudrais pas les froisser. Puis Thierry Gouvenou m'a dit surtout, sois pas maladroit. Mais je pense malgré tout qu'on va avoir des... est-ce que Cavendish sera le premier maillot jaune? Je n'en sais rien. Je n'ai pas encore regardé totalement dans le détail la première étape. Est-ce qu'il y a des côtes, Thierry?
Aucune.
Alors j'ai envie de mettre Marc Cavendish, premier maillot jaune du Tour de France, et c'est dans le domaine du probable et
très
du possible.
Bah, on en reparlera le samedi 29 juin, alors. Thierry Gouvenou, suite à l'annonce du parcours du Tour de France, il y a toujours de nombreux retours de fans de la petite reine et plus particulièrement de la grande boucle qui critiquent parfois les choix d'ASO. C'est un sujet qui intéresse beaucoup de monde. Pour essayer de leur apporter quelques explications sur certains de ces choix, vous pouvez peut-être nous expliquer quels sont les critères et les contraintes qu'a le Tour en fait pour passer sur une route ou un col en particulier?
Oui, déjà, en termes de distance sur le Tour, on n'a pas le droit de dépasser les 3500 km. Donc ça, c'est déjà sa limite pour visiter tout le pays. Ensuite, on est quand même assez soucieux de la sécurité des coureurs. Et c'est vrai qu'on les envoie que très rarement sur des petits cols, comme on peut voir en Italie. On a le souci de respecter la sécurité. Et c'est très rare qu'on envoie les coureurs sur des routes étroites. Donc ça limite aussi le nombre de potentiels de cols. Après aussi, au niveau des arrivées, c'est exactement pareil. La zone technique du Tour de France est peut-être 10 fois supérieure à celle du Tour d'Italie. Et tout ça, ça nous limite un peu dans notre choix du nombre d'arrivées qu'on peut faire au sommet. Et ça, c'est un des critères les plus importants dans le choix des cols et des parcours.
Est-ce que du coup, ce n'est pas handicapant d'être la grande machine que est le Tour de France?
Oui, je pense qu'il y en a beaucoup qui nous jalousent et qui préféreraient avoir à gérer le nombre de médias et de zones techniques plutôt que de gérer le problème des routes.
Il y a un de nos auditeurs, Bruno, qui se demande comment ça se fait que certaines parties de la France semblent ignorées par le Tour de France. Il mentionne particulièrement les Alpes du Sud et l'école du Mercantour, où le Tour ne serait pas passé depuis près de 40 ans, et les massifs basques et cévenols, qui ne sont pas souvent visités. Est-ce que ça s'explique justement par ces contraintes, où il y a un manque de candidature, ou il y a d'autres raisons?
Moi, je me souviens avoir gravi ces dernières années des cols, la Bonnette Restefond, a priori, c'est dans les Alpes du Sud. Le col Daniel, c'est dans les Alpes du Sud. La Lombarde, c'est entre l'Italie et la France, c'est dans les Alpes du Sud. Mais c'est vrai qu'un des critères aussi importants, c'est les possibilités de logement de toute la caravane du Tour et des équipes. Et c'est vrai que lorsqu'on regarde sur une carte entre Nice, Digne et Sisteron, on n'a pas forcément l'hébergement potentiel pour accueillir toute la caravane. Et c'est certainement là qu'on a nos limites pour aller plus souvent dans les Alpes du Sud.
D'accord. On parle toujours du parcours. Cette semaine, on a appris un peu le désastre qui s'est produit avec les rivières qui se sont débordées dans le sud-ouest de la France. Sur une des étapes pyrénéennes, il n'y en a que 2, la 9e entre Saint-Giron et Bagnères-de-Bigorre, le peloton du Tour doit y passer. Comment ça va se passer? Est-ce qu'on aura un impact des routes qui ont été partiellement emportées? Est-ce que vous avez des informations là-dessus? Est-ce qu'il y a peut-être un plan B au cas où?
Donc c'est vrai qu'on a vu des images, on est un petit peu soucieux au niveau de la ville de Saint-Béat. C'est une ville qui se trouve, une commune qui se trouve dans le bas du col du Monté. C'est vrai qu'on a vu pas mal de dégâts dans cette ville. Après, il reste 15 jours et je suis sûr que c'est une source de motivation importante pour tous les gens d'accueillir le Tour ce jour-là. Et si les routes ne sont pas complètement détruites, je pense qu'ils vont faire le maximum pour accueillir et montrer qu'ils ont réussi à dépasser ces gros problèmes qu'ils ont pu rencontrer ces dernières heures avec les inondations.
D'accord. On a la petite pensée pour eux en tout cas et on espère que le Tour de France puisse y passer quand même sans problème.
Oui, après, donc si c'est vraiment on a des grosses difficultés, on a d'autres solutions, ça c'est sûr, mais on les prendra vraiment au dernier moment. Et c'est vrai que je pense que de voir passer une fête comme le Tour de France dans leur commune, ça pourrait que leur apporter du soutien après ces difficultés.
Tout à fait. Daniel Mangès, on vous annonce souvent comme la voix du Tour, mais depuis une quarantaine d'années, vous faites bien plus que seulement le Tour, non ?
Oui, je commence à Bessèges et je finis aussi Jour de Grenoble, donc ils sont au mois d'octobre. C'est vrai que c'est le surnom que l'on m'a donné. Et bon, ben, je disons que c'est le Tour, je fais le Tour de la France, moi, toute l'année. Et puis avec la même envie, la même passion, c'est vrai que chaque course est importante. Le Tour est au sommet de la pyramide, c'est la plus grande épreuve cycliste au monde. Et nous, Français, en sommes fiers parce qu'on a cette chance. Mais il y a autour de cela bien de nombreuses épreuves qui préparent les champions de demain. Et en France, on a pu remarquer le succès, notamment de la Coupe de France, où il y a énormément de monde en public sur les lignes d'arrivée, même sur le parcours. C'est vrai que nous avons un pays très cycliste, même si parfois, eh bien, quelques médias parisiens oublient d'en parler. Je pense que le sport cycliste est l'un des plus populaires. On le voit encore aujourd'hui avec le public. Et moi, il y a parfois quelque chose qui m'énerve, c'est quand je rentre, puis que j'entends à la radio qu'on m'annonce le résultat d'un tournoi de tennis du bout du monde où le 300e mondial a battu le 256e et qu'on oublie le même jour de donner le résultat du Tour du Limousin, qui est une belle épreuve française. Le sport cycliste fait partie du paysage, non pas de Paris, mais de toute la France.
C'est d'ailleurs une intervention que j'ai pu faire à l'occasion de l'émission Stade 2, où on parlait du Tour d'Oman, je crois, et pas de la course en France qui avait lieu le jour même. On a eu aujourd'hui l'occasion de vous entendre animer les courses des championnats de France, mais quand on revient au Tour de France, où vous êtes presque devenu incontournable après y avoir pris le micro pour la première fois en 1974, qu'est-ce que vous pensez spécifiquement du parcours du Tour de France ? Il y a quelques coins qui vous intéressent particulièrement, si je ne me trompe pas ?
Oui, moi j'ai Thierry à mes côtés. Ça aurait été bien qu'on ait une journée de repos supplémentaire au Mont-Saint-Michel, parce que j'aurais dormi une journée de plus à la maison. C'est une région que Thierry connaît bien également, puisque une partie de sa famille est dans le sud de Manche. Mais c'est vrai que sur le plan, ça va être très très fort, sur le plan touristique, sur le plan historique également, puisque c'est l'évêque d'Avranches et Coutances qui avait donc demandé à ce que l'on crée une abbaye sur le Mont-Saint-Michel. Et si on a la chance d'avoir du beau temps, ce qui est probable, parce que chez nous c'est souvent le cas, à peu près 300 jours par an, donc je pense qu'on aura une belle journée le 10 juillet prochain entre Avranches et le Mont-Saint-Michel. Mais vous savez, les parcours, moi je les regarde sur le plan sportif, mais c'est tellement la fête partout. Je suis quelqu'un de joyeux. Je dis toujours que le Tour de France et même le cyclisme, c'est l'antidote au vieillissement, parce que quand vous allez sur le Tour de France, vous vous rappelez obligatoirement un souvenir de l'enfance. Moi, quand j'étais gamin, il y avait régulièrement des étapes qui étaient quand Saint-Malo ou quand Rennes ou quand Saint-Brieuc, puisqu'à l'époque, il n'y avait pas de kilométrage limité. Donc, les organisateurs pouvaient faire des tours de plus de 4000 km. Et souvent, les organisateurs de l'époque prenaient les mêmes villes étapes qui étaient candidates. Et quand on allait sur le Tour de France, c'est vrai que c'était une sorte de 14 juillet. Et il n'est, si on vous, moi, ce qui m'épate sur la force du Tour de France, si on vous dit, par exemple, qui a gagné le Tour de France en 1947, il y aura bien quelqu'un autour de cette table qui va me répondre.
On se regarde tous.
Jean Robic, 1947. Ah oui, hein, et si on vous demande qui était président de la République en 1947, vous voyez, je vous l'avais dit. Donc le coureur cycliste est plus important qu'un président de la République.
Très bien. Donc après avoir parlé du parcours de ce 100e Tour de France, pour terminer sur le parcours du Tour avec Thierry Gouvenou, notre fidèle auditeur Bruno, il nous demande à nouveau quelque chose. Il nous demande si on peut, après le départ la semaine prochaine en Corse, peut-être rêver d'un départ dans les Dom-Tom, la Réunion, Guadeloupe, etc. C'est quasiment impossible, non, avec le décalage horaire, la distance, etc.
Oui, ça a déjà été étudié, mais c'est vrai que en termes de fatigue pour les coureurs, de décalage horaire, les coureurs cyclistes sont quand même beaucoup plus consciencieux de leur fatigue que de nombreux sportifs. Et ce serait quand même un peu malsain, je pense, de les envoyer dès le départ d'une grande épreuve comme ça, avec un décalage horaire aussi loin.
On va dire que ça sera donc peut-être pour la 200e édition.
On ne sera peut-être pas là pour le voir.
On va déjà profiter des beaux paysages que nous offrira la Corse en cette fin du mois de juin.
Alors parlons un peu de la course en elle-même maintenant. Il y a un coureur qui fait office de grandissime favori, Christopher Froome. Le coureur de la formation Sky a récemment remporté facilement le Critérium du Dauphiné en distançant en montagne Alberto Contador. Cette saison, il a également remporté le Tour de Romandie, le Critérium international et le Tour d'Oman. Son équipe a fait très forte impression. Alors est-il imbattable, Vincent Lavenue, à votre avis ?
Il semble aujourd'hui que lui et son équipe sont effectivement imbattables. Maintenant, le Tour de France reste le Tour de France. Il y a toujours eu des surprises, des déceptions, des coureurs qui s'écroulent à un moment donné, des favoris. Donc je crois que le Tour n'est pas joué à l'avance. Hein. Tout le monde sait que l'équipe Sky est extrêmement forte. Et donc tout le monde a intérêt finalement à poser des pièges à cette équipe. Voilà, donc je pense que d'autres coureurs ont des ambitions et je pense que Froome ne sera pas forcément la fête, même si aujourd'hui, effectivement, ça reste favori numéro 1.
Et comment on peut mettre à mal une équipe comme Sky, qui a un train quand même très très costaud, avec de nombreux coureurs capables de rouler plusieurs kilomètres en montagne?
Ce qu'il faut, c'est être capable de pouvoir les attaquer assez tôt pour user la machine, pour faire perdre des éléments assez tôt dans l'étape. Et puis surtout que les autres coureurs concurrents ne se courent pas les uns contre les autres, parce que c'est un petit peu ça le problème. À un moment donné, quand la hiérarchie commence à être établie et que le coureur vainqueur est parti pour l'emporter, les autres se courent un petit peu après. Donc voilà, il faut aussi qu'il y ait des coureurs qui ont un tempérament assez fort pour attaquer. C'est le cas de Contador, je pense. Il y aura aussi peut-être des coureurs nouveaux qui vont pointer leur nez cette année. Je pense notamment à Quintana. Attention à Quintana, c'est un pur grimpeur. Il arrive de Colombie, il s'est reposé jusqu'au dernier moment. Je pense que ça va être un bon client pour le Tour 2013.
Vous pensez la même chose, Yvon Sanquer ?
Oui, je pense qu'effectivement, pour dérégler la belle machine Sky, il ne faut pas s'y prendre au dernier moment. Il y a des coureurs de très grande qualité. Et c'est vrai que si on attaque dans le dernier col à 6 km de l'arrivée, ben là, il y a peu de chances de s'en sortir, voire aucune. Par contre, il y a des coureurs qui sont des coureurs de tempérament. Vincent citait Contador, c'est pas dans sa manière de faire que de se résigner, et c'est plutôt un attaquant, donc quelqu'un qui est capable d'attaquer de loin. Il l'a montré dans la Vuelta l'année dernière, et je pense qu'il y aura également cette année des gens qu'on découvrira, des coureurs qu'on découvrira. Quintana en fait partie, et puis pourquoi pas des jeunes Français également.
Vous pensez à qui
Je pense naturellement, je dirais à Thibaut Pinot, parce qu'il nous a vraiment montré des belles choses l'année dernière, mais pourquoi pas d'autres révélations. Je crois qu'il faut de toute façon, se battre et animer.
Et Vincent Lavenue, est-ce que vous pensez que la Saxo Bank de Alberto Contador peut rivaliser avec Sky, avec Nicolas Roche, Roman Kreuziger, Michael Rogers?
Moi, je crois qu'ils sont un petit peu en dessous quand même. La Sky, depuis 2-3 ans, domine vraiment le peloton international. Voilà, ils ont engagé des coureurs qui pourraient être des leaders dans toutes les équipes pour tirer des bouts droits, comme on dit vulgairement, pour faire les équipiers. Quand on voit un coureur comme Boissonhagen passer son temps à rouler pour défendre le paletot du leader, Boissonhagen dans toutes les équipes, ce serait le leader numéro 1. Donc je crois qu'ils ont une puissance exceptionnelle, ils ont les moyens pour ça, ils ont ils ont de l'ingénierie au service de la performance, qui fait qu'aujourd'hui c'est une équipe extrêmement forte. Voilà, donc je pense pas que Saxo soit tout à fait au niveau.
Donc vous voyez Sky aussi remporter le classement, le contre-la-montre par équipe, et prendre de l'avance sur les autres.
Contre-la-montre par équipe de Nice, je suis pas persuadé qu'il y ait des gros écarts, parce que c'est un contre-la-montre tout de même assez plat. Donc les grosses équipes seront assez proches l'une de l'autre, et c'est pas ce qui fera la différence pour le classement général. Après Sky, s'ils ont l'occasion, au travers de ce qu'ils vont faire sur le Tour, de remporter le classement par équipe, ils le feront. Mais leur objectif numéro 1, c'est de remporter le maillot jaune. Voilà, après, je pense qu'il y a aussi quelques équipes comme Movistar qui seront très fortes, notamment. Saxo sera fort aussi, puis d'autres.
Et Yvon Sanquer, que peuvent espérer les Français cette année, selon vous? Est-ce que, par exemple, un Thibaut Pinot, un Pierre Roland ou un Thomas Vauclair peuvent rééditer leur performance de l'année dernière, voire faire mieux?
Je pense qu'effectivement, les Français peuvent au moins faire aussi bien que l'année dernière, et plutôt que même continuer à progresser. Je crois que le cyclisme français est en complet renouveau, que ce soit au niveau des jeunes aussi bien qu'au niveau des coureurs un petit peu plus confirmés. Et il y a vraiment pas, pour moi, d'ambiguïté sur le fait que les coureurs français soient présents à nouveau dans cette 100e édition du Tour.
Donc Thibaut Pinot et Pierre Roland, qui sont quand même un peu les fers de lance pour le classement général, vous les voyez encore dans le top 10, voire dans le top 5?
Je pense qu'on peut avoir un coureur cette année français dans le top 5, même si ça reste toujours quelque chose de compliqué. Hein. Le top 5 dans le Tour, c'est le, c'est le top niveau mondial. Donc pour un Français comme pour les autres, c'est pas quelque chose de simple à réaliser.
Et Vincent Lavenu, que peuvent espérer aussi d'autres jeunes coureurs qu'on n'a pas forcément eu l'occasion encore de voir sur le Tour de France? Je pense à Nasser Bouhanni ou à Romain Bardet.
Alors ils opèrent tous les deux dans des schémas bien différents. Hein. Nasser Bouhanni est un très très, pour moi c'est un top sprinteur mondial. Hein, donc il va se frotter sur le Tour de France avec Kittel, avec Cavendish, avec Rappel. Je pense qu'il peut à un moment donné tirer son épingle du jeu. C'est un malin, un vrai sprinteur très adroit. Donc il peut gagner une étape du Tour, tout à fait. Romain Bardet est un de ces jeunes Français également qui monte en puissance. Il va découvrir le Tour, il a tout juste 22 ans. Mais bon, je pense qu'il peut faire, pourquoi pas, un bel exploit en montagne. Il aura pour mission d'accompagner Jean-Christophe Perrault, qui est notre leader, et pour qui on espère, pourquoi pas, aussi un top 5. On fait partie de ces coureurs qui peuvent espérer un top 5. Il a déjà fait 9e du Tour. Donc on a mis aussi une organisation, un schéma autour de lui. Et Bardet sera l'un des coureurs qui sera appelé à rester à ses côtés le plus longtemps possible.
Donc on a déjà hâte d'être samedi prochain au départ du Tour de France 2013 à Porto Vecchio, mais le cyclisme français a la chance de ne pas que devoir se reposer sur le Tour de France pour connaître les belles courses. Quand on a vérifié dans le calendrier UCI interactif sur VeloWire.com, on dénombre pas moins de 68 courses en France entre la Marseillaise fin janvier et le Chrono des Nations le 20 octobre prochain. Ces 68 courses, dont 26 restent encore à venir d'ici fin octobre, se répartissent en 31 courses à étapes et 37 courses d'un jour. Et de ces dernières, 16 d'entre elles font partie de la Coupe de France PMU. Pour parler de tout cela, nous sommes avec deux organisateurs de manches de cette Coupe de France, justement. Dominique Serrano, vous organisez tous les ans au mois d'avril le Grand Prix des Nains du Porte du Hainaut. Et cette année, nous avons vu cette course remportée par Arnaud Démare, qui l'a gagné au sprint devant deux autres sprinteurs redoutables, Brian Coquart et Nasser Bouhanni. Vous êtes par ailleurs également vice-président du ROC, le Rassemblement des organisateurs de courses cyclistes. Bonjour.
Bonjour.
Nous avons également avec nous Jean-Luc Pernet. Vous êtes l'organisateur de la Châteauroux Classique de l'Indre et également représentant du ROC. Bienvenue.
Merci, bonsoir.
La Classique de l'Indre, alors que le vent arrive sur nous et la pluie aussi, la Classique de l'Indre aura lieu cette année le 25 août prochain, deux jours avant le départ du Tour Poitou-Charentes, organisé par Alain Clouet, également présent ici. Bonjour Alain, vous avez été élu en début de cette année secrétaire général de la Ligue nationale de cyclisme et vous avez été moteur dans la mise en place de cette émission. Merci donc de nous faire confiance. Et pour parler des intérêts des équipes sur ces courses et de la stratégie sportive, nous avons également avec nous Stéphane Hulot, le Breton, qui est passé d'une carrière de cycliste professionnel à une nouvelle carrière, celui de manager, avec la création de l'équipe Besson Chaussures, si on se souvient bien, en 2008, et qui est depuis devenue l'équipe Sojasun. On commence d'abord avec la Coupe de France PMU.
Anthony Gélin de la FDJ est en tête du classement avec 113 points. Mais Samuel Dumoulin, le sprinter puncher d'AG2R La Mondiale, n'est pas loin avec 100 points au compteur. Justin Jules de La Pomme Marseille est troisième avec 93 points. Alors Stéphane Hulot, est-ce que vous pensez que le classement de la Coupe de France va se jouer entre ces trois-là ou d'autres comme Ioane Uttarovic d'AG2R La Mondiale avec 73 points peuvent encore s'imposer?
Mathématiquement, tant qu'il y a des possibilités, oui. Sachant que le gros morceau des Coupes de France est quand même sur le mois d'avril-mai. Maintenant on sait que la Classique de l'Inde sourit en général à des sprinteurs, donc forcément ça va être des courses importantes pour ce type de coureur.
Donc vous voyez qui concrètement l'emporter?
Ben, je crois que c'est encore un petit peu tôt pour le dire, parce qu'il y a l'après-tour, tout dépend de comment ces coureurs vont en sortir, s'ils le font déjà. Donc justement c'est tout l'intérêt de la Coupe de France, c'est qu'il y a des coureurs qui sont parfois en deuxième, troisième rang, qui mathématiquement peuvent l'emporter, et on sait qu'il y a des courses de fin de saison qui demandent des ressources et qui peuvent inverser la tendance.
Pour le classement des jeunes, on le rappelle, Brian Coquart d'Europcar est premier du classement avec 71 points, Yannick Martinez, le coureur de La Pomme Marseille, est deuxième avec 66 points, Arnaud Démare, troisième avec 50 points. Alors, est-ce que selon vous, Stéphane Hulot, le classement va également se jouer entre ces trois-là pour les jeunes, trois très bons espoirs français?
Bah, je crois que ça commence même à être des références au-delà des espoirs. Donc forcément, c'est des coureurs qui auront à cœur, en tout cas, de remporter ce classement. Et pourquoi pas même le classement final. Donc ça va aller de pair, je pense.
D'autres coureurs et d'autres jeunes se sont entre guillemets révélés, hein, comme Florian Sénéchal qui court dans la réserve d'Omega Pharma Quick-Step et Johan Lebon, l'ancien champion du monde junior. Alors est-ce que la Coupe de France est un baromètre pour l'avenir des jeunes français?
c'est un indicateur. Est-ce que c'est un baromètre fiable? Il y a de toute manière rarement des inconnus qui l'emportent ou qui font des belles performances sur ces épreuves-là. Aujourd'hui, c'est rentré dans le programme important des équipes françaises, en tout cas, et on tient à ces épreuves-là, parce qu'effectivement, c'est là qu'on détecte des coureurs d'avenir et qui permet aussi de confirmer d'autres espoirs.
Et pour Sojasun, votre équipe, est-ce que vous allez chercher un petit peu les jeunes qui marchent en Coupe de France pour pouvoir essayer de recruter ?
Je dirais que nous, on est plus au niveau des jeunes, on recrute par rapport à notre vivier. Et en ce qui concerne les épreuves de Coupe de France, c'est vrai que c'est déjà des coureurs confirmés. Donc il y a des courses effectivement qui sont impactantes et qui permettent de détecter des talents de demain.
Donc vous, et la Coupe de France est quand même important pour vous aussi dans le calendrier français ?
Elle est essentielle pour le calendrier français et donne un vrai fil rouge tout au long de la saison.
Très bien, donc nous avons donc Jean-Luc Pernet, donc la Châteauroux Classique de l'Indre, effectivement, comme le dit Stéphane Lo, ça se termine souvent au sprint. Cette année, votre course se prépare bien encore ?
Oui, effectivement, elle se finit régulièrement au sprint. On a encore essayé cette année de modifier le parcours pour essayer de changer la donne, mais ce n'est pas évident puisque chez nous, le relief est relativement plat. Et même si l'on met des bosses, elles sont relativement loin de l'arrivée puisqu'on a un circuit final que l'on fait 5 fois, ce qui fait 37 km. Et en plus, on a la télévision, donc dès que les caméras arrivent, ça roule très très vite. Et généralement, ben, l'issue, on la connaît, c'est un sprint massif. Et je pense que cette année, ça sera, comme d'habitude, encore une arrivée au sprint.
Très bien. Et vous dites justement que vous changez le parcours tous les ans. C'est, je pense, plutôt rare pour une épreuve Coupe de France. Il y en a beaucoup qui reprennent le même parcours tous les ans. Pour vous, c'est important de le changer à chaque fois ?
Oui, c'est pour avoir un parcours différent chaque année, pour que les coureurs ne s'habituent pas à un parcours particulier, et puis ça permet aussi par rapport à notre département de faire visiter tout le département aux coureurs, et ça permet aussi de montrer la course dans toutes les communes de l'Indre.
Très bien. Dominique Serrano, vous êtes l'organisateur donc du Grand Prix de Denain. Le Grand Prix de Denain fait partie de la Coupe de France. Pour vous, c'est important de faire partie de la Coupe de France, c'est important de faire partie de ce calendrier particulier ?
Mais bien sûr, parce que la Coupe de France représente quand même un fil rouge au niveau français qui nous est envié par sa qualité, de par son histoire. Et nous, on y est d'autant plus attachés qu'on y fait partie depuis le début. On est présent à la Coupe de France depuis sa création. Et je pense que la Coupe de France est un produit qui est important et qui nous est envié quand même par les autres pays, même, je pense.
Oui, tout à fait. Quand on parle donc de Coupe de France, on parle forcément de courses d'un jour. On a aussi les courses à étapes en France qui sont, enfin, probablement les plus connues, sont probablement les Paris-Nice, le Critérium International, le Critérium du Dauphiné, qu'on peut voir comme une sorte de mini-tour de France. Mais à côté de ces courses, il y a de nombreuses régions qui connaissent aussi leur propre tour, entre guillemets, comme c'est le cas par exemple en Poitou-Charentes, où vous organisez, Alain, le Tour Poitou-Charentes tous les ans au mois d'août. On entend souvent dire qu'il est de plus en plus difficile financièrement, logistiquement, etc., d'organiser une course cycliste de ce type. Qu'en est-il réellement ?
Oui, c'est vrai, puisque aujourd'hui d'ailleurs, sur le plan financier, et ça ne concerne pas que les organisateurs de courses à étapes, je dirais que ça concerne évidemment tous les organisateurs, avec parfois des désengagements au niveau des collectivités locales. Bon, ça c'est un point, le côté financier, puis il y a aussi le côté sécurité qui est un point très important, le côté organisation, c'est, vous savez, en matière de cyclisme, notre terrain de jeu, nous, ce n'est pas un stade, c'est la voie publique, donc de ce côté-là, il y a évidemment beaucoup à mettre en œuvre. Donc c'est vrai que ça devient difficile pour les organisateurs que nous sommes tous, et je dis c'est à la fois ceux d'un jour ou par étape, mais je crois que nous avons ce cyclisme un peu dans la peau, et nous sommes fiers de pouvoir, aux côtés des équipes notamment, aux côtés des coureurs, eh bien, valoriser et tout mettre en œuvre pour que ce cyclisme français soit le meilleur possible.
Ouais, donc malgré ces difficultés, enfin, probablement donc entre autres pour cette fierté que vous mentionnez, vous continuez quand même à organiser cette course avec toujours autant d'énergie et vous faites toujours des choses pour essayer de la développer davantage. Est-ce que c'est parce que c'est une course comme le Tour Poitou-Charentes qui contribue au développement du cyclisme français ?
Oui, je pense que toutes les courses, c'est vrai que vous l'avez dit, il y a d'un côté, vous avez parlé tout à l'heure du Tour de France, il y a d'un côté le Tour de France, et puis il y a de l'autre côté toutes ces courses. Et le discours de Marc Madiot, qui est notre président au niveau de la Ligue, Marc le dit souvent, le cyclisme a besoin de tout le monde, il a besoin de tous les organisateurs que nous sommes. Et donc c'est ça, je crois qu'on le fait, parce qu'on a cette envie, cette moelle de le faire et de que tout puisse se passer dans les meilleures conditions. C'est vrai qu'on est triste depuis le début de l'année de voir que les coureurs se sont retrouvés dans une situation tellement maussade avec cette pluie sans arrêt. C'est eux, hein, eux ils sont sur le vélo. Pour nous organisateurs, c'est vrai que si on peut organiser avec le soleil, on va attirer du public, on va créer, générer une fête. Ça, c'est une chose. Mais on est aussi solidaires et on n'oublie pas nos acteurs, parce que sans eux, évidemment, on n'aurait pas besoin d'organiser. Nos acteurs qui, en cette année 2013, souffrent énormément. Et je peux vous dire qu'on y pense beaucoup.
Et dans ce contexte de difficultés, comment vous voyez les choses pour l'avenir ? Est-ce qu'il y a des choses à changer au niveau du calendrier ? Vous êtes par exemple face au Tour d'Espagne et maintenant aussi au World Sports Classic entre Anvers et Rotterdam. Est-ce qu'il y a d'autres aspects ?
Je crois que le coup de gueule, on l'a lancé à plusieurs reprises, cette mondialisation du cyclisme vue par certaines autorités de l'Union Cycliste Internationale qui ne s'occupent en aucun cas de nous, organisateurs, comme ils ne s'occupent en aucun cas aussi de certaines équipes. Et je crois qu'il y a ici, autour de cette table, quelqu'un qui en est convaincu, je vois Frédéric Rostin aussi. On est tous dans la même galère. On a voulu faire un cyclisme un petit peu à part. Bon, on a cru comprendre quand même que certains projets n'auraient pas lieu et que certains projets étaient bloqués. Donc, heureusement, pour l'instant, nous l'espérons. Nous, cette mondialisation, elle nous fait terriblement mal également. Je crois qu'aujourd'hui, le cyclisme, cette Europe, la vieille Europe, est quand même, elle, la terre du cyclisme. C'est vrai qu'aujourd'hui, organiser des épreuves aux États-Unis, des épreuves en Chine, c'est très bien, on va faire voyager les coureurs. Hein, ça, c'est très bien. Ça,
ils vont gagner des miles. Hein.
Ils vont certainement gagner des miles, il n'y aura pas de problème. Mais c'est vrai que nous, on est un petit peu délaissés, et là aussi, c'est le cas pour mes collègues qui organisent des courses d'un jour, parce que nous, encore, sur les courses à étapes, on a un petit avantage par rapport à eux, c'est que les équipes acceptent quand même, les équipes étrangères de haut niveau, de se déplacer plus facilement pour une épreuve telle que la nôtre de 4 jours, que de venir une journée sur une épreuve de Coupe de France. Ça, c'est un petit peu dommage, et je crois que c'est quelque chose auquel on attache beaucoup d'intérêt.
Jean-Luc Pernet, vous êtes d'accord avec le secrétaire de la LNC ? Qu'est-ce qui doit changer pour vous ? Vers quoi on doit évoluer ?
Éventuellement moins de concurrence, puisque moi je le vois aussi pour la classique de l'Indre. Je suis placé entre le Limousin et le Poitou-Charentes. Certaines équipes pro-tour participent à l'une et à l'autre. Et moi qui suis juste au milieu, ben, je n'y ai pas droit parce qu'il y a le Tour d'Espagne, il y a la classique de Hambourg en même temps. Donc forcément, comme les manches de Coupe de France pour les équipes étrangères ne sont pas obligatoires, eh bien, ils vont vers les courses qui sont obligatoires, et notamment les courses pro-tour. Donc c'est une concurrence quelque part déloyale, puisqu'on a les mêmes contraintes que les autres pour organiser, les mêmes difficultés, et parfois eh bien, on a des équipes qui nous passent sous le nez alors qu'elles sont à nos portes.
Toujours est-il qu'on va se retrouver avec plaisir le 25 août prochain à Châteauroux et le 27 août pour le Tour Poitou-Charentes à Saint-Maixent-l'École pour le 27e Tour Poitou-Charentes.
Pour terminer cette émission, nous allons évoquer la formation française. La France a la chance de compter de plus en plus de très bons jeunes. Dès leur passage chez les professionnels, certains coureurs parviennent à s'illustrer sur les courses World Tour ou sur des grosses courses. C'est le cas dernièrement notamment de Arnaud Demare, Nasser Bouhanni, Thibaut Pinot, Romain Bardet ou encore Brian Coquart. Afin de parler et d'essayer de comprendre le changement qui s'est opéré chez les jeunes français, nous recevons Pascal Chanteur, ancien professionnel notamment chez Casino, AG2R, Prévoyance et Festina, et notamment vainqueur d'une étape sur Paris-Nice 1997. Pascal Chanteur, vous êtes également actuellement président du syndicat des coureurs cyclistes, l'UNCP, l'Union Nationale des Cyclistes Professionnels. Nous recevons également Xavier Jean, qui avait terminé deuxième de la troisième étape du Tour de France 1998, derrière Jens Hepner. Vous êtes désormais trésorier de la Ligue et vice-président de l'Union Nationale des Cyclistes Professionnels et actuel ostéopathe de Sojasen Espoir. Et nous avons également toujours avec nous Stéphane Hollo de l'équipe Sojasen et Frédéric Rostin de La Pomme Marseille. Alors, peut-on dire que la formation française est plus efficace vu le nombre de très bons jeunes qui émergent depuis plusieurs années, Pascal Chanteur ?
Oui, la formation, les résultats de nos jeunes le prouvent. Je veux dire, le travail qui est fait par la fédération et par les DN1 est une très bonne formation. Les résultats, les champions du monde qui ont pu être acquis par nos tout jeunes le prouvent. Pour côtoyer Bernard Bourreau, l'un des sélectionneurs de l'équipe de France, qui m'en parle relativement souvent, je m'aperçois qu'un travail de fond est mené et qui après continue et perdure avec des centres de formation, des équipes professionnelles, que ça soit avant le tour ou autre.
Et concrètement, qu'est-ce qui a changé ? Vous parlez de travail de fond concrètement ?
Ben disons que les entraînements sont beaucoup plus aboutis, il y a eu une recherche qui a été faite, disons que les méthodes d'entraînement ont évolué. Nous étions à notre époque, c'est pas si lointaine que ça, mais plus ou moins un petit peu livrés à nous-mêmes. Et aujourd'hui, beaucoup d'équipes de DN1 ont des entraîneurs, ont des gens compétents et des gens qui font évoluer cette formation et tous ces jeunes.
Vous partagez cet avis, Xavier Jean ?
Oui, je pense que l'émergence de jeunes talents aujourd'hui français est la suite logique du classement des équipes de France junior ou espoir au niveau international depuis 5 ans où ils trustent les places sur les podiums et les titres de champion du monde. La France a été très régulièrement première nation mondiale au niveau du classement en junior espoir ces dernières années. Donc c'est une suite logique. Je pense qu'il y a eu aussi beaucoup de travail au niveau des équipes professionnelles qui se sont beaucoup investies dans la formation. Et je pense qu'aujourd'hui, les équipes professionnelles commencent à recueillir le fruit de ce travail, de cet investissement.
Et Stéphane Hollo, qu'est-ce qui a changé par rapport aux années où vous étiez professionnel, vous ?
Je pense qu'on ressentait beaucoup plus le clivage entre le monde professionnel et le monde amateur, qui repose quand même en grande majorité sur du bénévolat. C'est souvent des jeunes qui arrivent, ou du moins qui ont des connaissances dans le vélo grâce à un père, un cousin, un oncle. Aujourd'hui, le fait que les équipes professionnelles soient possèdent des équipes réserves ou ont des divers systèmes de formation permet aussi à des jeunes de mener de pair le double projet, études et vélo. Et forcément, ça se développe, il y a du talent, on arrive à poursuivre le vélo plus longtemps. Et puis, comme disait Xavier, on en récolte des fruits. Donc c'est plutôt un système intelligent qui s'est mis en place, qui n'existait pas par le passé.
Frédéric Rostin, il y a encore quelques années, vous étiez avec la Pomme Marseille en division nationale 1 et vous avez réussi à mener l'équipe à la catégorie continentale. Alors, ça montre bien que la formation française est de plus en plus efficace, parce que vous avez gardé à peu près le même groupe de coureurs.
Oui, dans le chemin de marre, mais ce que disent Xavier et Stéphane est tout à fait vrai. En fait, globalement, c'est qu'il y a toujours eu un maillage de clubs très important en France, parmi les pays européens les plus maillés avec une vraie culture vélo, comme l'Italie ou la Belgique. Après, derrière, il y a une vraie implication de la fédération avec les clubs de DN2, de DN1, de DN3, qui permet graduellement de mener les coureurs progressivement vers le professionnalisme pour ceux qui en ont la capacité, en menant pour certains un double projet qui va leur permettre d'avoir une perspective après leur carrière cycliste. Et tout ceci s'est structuré avec des CTS, un directeur national Bernard Bourreau s'investit beaucoup pour la formation, qui porte ses fruits depuis maintenant plusieurs années. Quand on voit les titres de champion du monde à répétition dans les catégories juniors, c'est pas le fruit du hasard. et maintenant de jeunes coureurs français qui pointent et qui sont performants. Il y avait des carences au niveau des sprinteurs, maintenant on arrive à avoir de très bons jeunes sprinteurs français, avec Demar qui vient du pôle de Wascal. Donc c'est vraiment le fruit de la formation française. Donc il y avait déjà des choses et ça s'optimise encore plus maintenant avec l'implication aussi des grosses structures qui mettent des moyens et qui investissent dans la formation.
Et Xavier Jean, selon vous, dans quel domaine doit-on encore progresser ?
Vaste question. Je pense que ce qui pose encore aujourd'hui problème, c'est l'accessibilité aux courses pour un certain nombre d'équipes. Pour pouvoir être performant à très haut niveau, il faut courir à très haut niveau, il faut pouvoir être invité dans des courses, notamment étrangères, de bon niveau, et c'est pas toujours chose facile. Donc je pense que des fois, ça manque un petit peu aux équipes françaises pour permettre à ces jeunes de s'exprimer et de s'apercevoir du niveau vraiment international, du très haut niveau. Et je pense que c'est sur ce secteur-là qu'on doit essayer de travailler, ce qui n'est pas le simple ressort des équipes, mais du fait de la réglementation, c'est pas toujours facile non plus.
Vous partagez cet avis, Pascal Chanteur ? Ou vous avez peut-être d'autres idées dans le domaine dans lequel la formation française doit progresser ?
Non, je suis un petit peu les propos de Xavier. C'est vrai que pour progresser, de pouvoir évoluer dans le plus haut niveau et dans les plus grandes courses qui soient, me semble la meilleure des choses. Et puis après, je pense que c'est aussi une démarche individuelle. Je pense qu'on a de bons jeunes. Après, il faut juste qu'ils appréhendent cette façon de penser, de travailler différemment. Peut-être qu'ils ont prouvé qu'ils étaient les tout meilleurs chez les tout jeunes. Il faut juste qu'ils prennent confiance aussi à un moment donné, qu'à partir du moment où ils passent à l'échelon supérieur, ils ont les capacités d'être aussi des tout meilleurs.
D'accord. Quand on parle aujourd'hui de la détection de jeunes talents, on constate qu'ils viennent plus vraiment uniquement du cyclisme sur route. On en a aussi qui viennent du VTT, du cyclocross, la piste ou encore le BMX. Je pense par exemple ces dernières années avec Adel Evans, quand même, un grand champion VTTiste qui a ensuite remporté le Tour de France en 2011. On peut aussi mentionner Peter Sagan qui a gardé son habitude de faire des wheelies sur du monde de VTT et du cyclocross avant de devenir un coureur assez complet sur route. Un Bradley Wiggins qui était plutôt spécialiste de la piste. Aussi, par exemple pour Stéphane Hello, Alexis Villermoz, l'équipe Sojasun, qui viennent aussi du monde du VTT et qui s'est illustré cette année sur le Rhône-Alpes-Isère Tour, notamment avant de se présenter également aux avant-postes sur la route du Sud la semaine dernière. Et on n'oublie bien évidemment pas Jean-Christophe Perrault, issu du VTT, est venu au cyclisme sur route que très tardivement, j'en oublie certainement. La question qui se pose donc, c'est qu'est-ce que apporte en fait ces disciplines différentes à un futur coureur de cyclisme sur route, Stéphane ?
Ben, je pense que ce ne sont pas des disciplines tant distinctes que ça par rapport à la route, où effectivement on a, mais c'est pas d'aujourd'hui, je crois que l'apport australien à ce niveau-là, au niveau des poursuiteurs, on l'avait vu déjà avec des Bradley McGee notamment, ça développe forcément des capacités extrêmement élevées, des coureurs qui sont capables de rouler à 60 km/h pendant 4 km, on sait que forcément, c'est une fois qu'il aura pris un peu d'endurance, ça peut aller encore très très vite et forcément les meilleurs en ressortent. Mais je pense que ce qu'il ne faut pas oublier dans la formation, c'est aussi l'apport de l'équipe de France, et il ne faudrait surtout pas oublier de donner encore les moyens et encore plus de moyens aux équipes de France qui justement permettent à tous ces jeunes, les meilleurs, parce que c'est vrai qu'ils ont la capacité de prendre les meilleurs, de pouvoir les aligner, de pouvoir les regrouper plus régulièrement et de développer une vraie politique de haut niveau. Et ça, c'est bien aujourd'hui que les équipes professionnelles en aient pris conscience et puissent prendre le relais aussi à certains moments. Mais avant tout, je crois qu'on doit aussi saluer ce qui est fait au niveau des équipes de France. Et ce qui est important, c'est que là, au niveau, de la Fédération française de cyclisme, on n'oublie pas qu'on fait d'abord un sport de compétition, non pas un sport de loisir, et de maintenir ses capacités, en tout cas, à ses entraîneurs de qualité que l'on a, nous, en France, de pouvoir, on le voit sur la piste, même si c'est des sprinteurs, mais on est les parents pauvres un petit peu, ce sont les parents pauvres un peu du cyclisme, alors qu'effectivement, ils nous apportent beaucoup, que ce soit sur la route, alors Tour de France représente énormément, mais en tout cas, c'est des récolteurs de médailles olympiques, c'est aussi, on apprend tous de ces disciplines-là, donc effectivement, c'est transversal, et effectivement, on s'aperçoit que sur la route, ça marche aussi bien.
Vous dites d'un côté que ces disciplines ne sont pas si différentes que ça. Par contre, comment vous, par exemple, en tant que manager d'une équipe cycliste sur route, vous faites pour détecter des talents, des jeunes pousses en fait, dans ces disciplines-là, sachant que ce n'est peut-être pas naturel de se rendre sur une course de ce type ?
Bah, nous, on est un petit peu l'inverse, c'est qu'on n'a pas trouvé un budget et monté une équipe professionnelle, c'est qu'on est parti un peu comme Fred, du bas de la pyramide en 2004, on est champion de France aujourd'hui avec un jeune. Ça fait 10 ans qu'on a monté ce projet-là avec Xavier, avec Lilian Le Breton, avec mon père. Et j'ai le souvenir d'ailleurs quand Rémi Poriol, qui était à la Pomme Marseille, avait gagné à Boulogne-Billancourt, à Boulogne tout court, Boulogne-sur-Mer, qu'on n'avait pas un seul coureur à l'arrivée. Et pourtant, on avait un certain Pierre Rolland dans nos rangs. Donc, c'est un travail acharné de formation. Et la détection, elle se fait comme ça, mais c'est avant tout du travail. C'est pas comme ça, on voit un talent et on le prend et ça marche. C'est qu'il y a un gros travail. On est avec des adolescents, on est avec des jeunes. Donc, je crois que tout le monde se donne la main par rapport à ça. On est là pour porter les meilleurs talents au meilleur niveau. Mais après, être effectivement présent sur toutes les disciplines, c'est impossible pour un manager ou une équipe. On n'a pas des budgets pléthoriques comme dans le football, où on peut se déplacer dans tous les pays, surtout les championnats du monde, championnats d'Europe. Ça passe aussi par la débrouillardise. Et puis, encore une fois, on s'appuie sur du bénévolat. On s'appuie sur des gens qui encadrent des jeunes, qui les montent progressivement à des niveaux. Et on en récolte des fruits, des fois sur des durées bien, bien longues, mais le plaisir est très bon quand ça arrive.
On va maintenant évoquer la science dans le cyclisme, entre les SRM qui permettent d'évaluer entre autres la puissance développée à chaque moment par le coureur, entre les combinaisons de plus en plus pointilleuses et aérodynamiques, les entraînements également de plus en plus précis, le cyclisme devient un sport pleinement scientifique. Et afin de progresser, les jeunes n'hésitent pas à prendre des entraîneurs spécialisés et à acheter du matériel de professionnels dès la catégorie cadet. Alors est-ce une bonne chose selon vous, Frédéric Rostin, que les jeunes se professionnalisent très rapidement ?
Mais disons que c'est une évolution de la société dans le fait que bon, il y a une accessibilité à un maximum d'informations aujourd'hui. Quand un gamin débute en vélo, il y a deux cas de figure où il est passionné et c'est lui-même qui a envie de monter sur un vélo, ou alors il fait partie d'une famille de vélos et reproduit un petit peu ce que papa faisait ou ce qu'il a vu un oncle le faire. Cela dit, une professionnalisation précoce montre aussi certaines limites. On voit beaucoup de jeunes talents qui se concentrent plus sur l'artifice que l'essentiel. C'est surtout, avant tout, préserver l'envie de progresser, le plaisir à faire des efforts sur un vélo, à s'amuser. Et je pense que c'est des éléments qui sont primordiaux dans les jeunes catégories pour garder cette fraîcheur dont ils auront bien besoin pour le haut niveau plus tard.
Vous êtes d'accord avec ces propos, Pascal Chanteur, vous qui étiez professionnel il y a 20 ans ?
Oui, assez. Il faut quand même bien s'imaginer que le sport cycliste, c'est quand même l'un des sports les plus durs. C'est un sport d'endurance. Et c'est vrai que d'avoir un tout jeune, minime, cadet, je pense qu'à un moment donné, à chaque étape de la vie, on se doit d'avoir un certain niveau de performance. Je pense que minime et cadet doivent rester des catégories où on est dans une notion de découverte, de plaisir. De découverte et de plaisir, ça veut dire que c'est bien deux choses distinctes. Et puis à partir de là, il va évoluer au gré de sa propre évolution personnelle. Après, junior, c'est autre chose. Là, le travail commence à prendre des proportions un peu plus importantes. Parce qu'il y a aussi, comme on l'a dit tout à l'heure, on l'a évoqué par rapport à la formation, il y a les équipes de France qui sont en ligne de mire. Donc c'est une démarche totalement différente. Mais je pense que c'est très important de laisser évoluer un jeune au gré de son évolution personnelle. Et encore une fois, je dis que minime et cadet, Frédéric l'exposait tout à l'heure, de vouloir gravir les échelons trop vite, des fois, permet aussi, démontre qu'un certain nombre passe à côté peut-être de certaines très bonnes choses.
Voilà. Xavier Jean, vous aussi, vous étiez professionnel il y a à peu près 20 ans. Alors, est-ce que le vrai cyclisme, entre guillemets, celui des sensations, où on courait un peu donc, et on s'entraînait avec pas mal de fougue, en tout cas plus que maintenant, où c'est très précis, n'est pas en train de mourir Est-ce que on ne rentre pas dans une nouvelle ère du cyclisme ?
Je ne sais pas, ça a évolué avec la société. Nous, on a connu l'arrivée du SRM aux alentours des années 99 à peu près. On était un petit peu avec Stéphane à l'époque, les précurseurs en France de l'utilisation de ce matériel, en tout cas dans les premiers. Maintenant, il y a une évolution, on ne va pas aller contre. Je pense qu'il faut préserver la notion de plaisir chez les jeunes, ça c'est sûr. On a trop souvent, il faut avoir le constat, c'est qu'on a quand même eu une baisse du nombre de licenciés chez les jeunes. Maintenant, la courbe a tendance un petit peu à s'inverser, et heureusement, on peut que s'en réjouir. On a voulu un petit peu, il y a certaines années aussi, c'est peut-être pour ça qu'on a eu un petit décrochage dans les jeunes talents, c'est qu'on a trop voulu faire de champions, de jeunes juniors qui avaient des résultats. Tout de suite, on en a fait des futurs très grands. Et je pense que, voilà, il ne faut pas oublier qu'en face, il y a une internationalisation du vélo, il y a des jeunes qui ont faim, parce qu'ils arrivent dans de pays plus défavorisés. Et donc, faut préserver quelque part cette envie, mais cette faim. Il faut avoir faim de gagner. Il faut donc pas trop les mettre dans un cocon non plus, quoi.
Justement, la faim de gagner, ce qu'on constate dans le cyclisme, notamment en France ou aussi à l'étranger, c'est de plus en plus animé par des jeunes, qu'on prenne un Arnaud Démare, un Thibaut Pinot, un Brian Coquart ou un Nasser Bouhanni, ou encore un Romain Bardet, par exemple, ou enfin pourquoi pas un Alexis Viermoz dont je parlais tout à l'heure. Ils savent tous réclamer et assumer un rôle de leader sur les courses où ils peuvent faire un résultat. Stéphane Hello, alors qu'il y a quelques années, un néo-pro remplissait plutôt toujours un rôle d'équipier. Comment vous accompagnez cette évolution ?
Bah, je crois qu'il faut remettre les choses un petit peu dans le temps. Je crois qu'on est aussi dans une période beaucoup plus saine du cyclisme. On a suffisamment œuvré, les coureurs sont suffisamment impliqués. Je pense qu'il y a eu beaucoup aussi de choses de fait au niveau des différentes fédérations nationales, internationales, des sponsors, des managers. Les mentalités ont changé. Donc c'est vrai qu'on est plus dans cette logique de découvrir aujourd'hui des coureurs qui ont un vrai talent qu'avant. C'est vrai qu'ils étaient noyés dans une masse, ou du moins d'un niveau qui était un peu artificiel. Donc à partir de là, on retrouve effectivement une plus logique continuité dans le niveau qu'on voyait déjà chez les espoirs, notamment en France, ce qu'on n'avait pas trouvé pendant de nombreuses années. Donc ça, je pense que c'est déjà une première raison. Et puis ensuite, assumer un rôle de leader, qu'est-ce que c'est un leader ? Est-ce que je suis capable de faire dans les trois premiers du tour, ou est-ce que je suis capable d'aller gagner une étape sur une course ? C'est prendre des responsabilités un jour où on est bien et de se dire oui, faites-moi confiance. Je dirais que de ce côté-là, la porte elle est grande ouverte. Et après, tout dépend de l'équipe qu'on a. Si on est un numéro dans une équipe, je pense qu'un néo-pro qui passe chez Sky aujourd'hui, s'il lève le bras face à Wiggins, on ne va pas lui dire grand-chose. On va plutôt lui dire, bah, écoute, non, pour l'instant, tu es dans un rôle d'équipier, ce qui est un petit peu logique. Donc, non, voilà, je pense que les jeunes n'ont pas moins ou plus faim aujourd'hui, c'est simplement que le niveau est plus abordable. Et on est sur des choses qui sont beaucoup plus en phase avec ce qu'on demande à la physiologie et au corps qui est capable de donner. Pardon.
Par contre, du coup, on peut avoir, en tant que coureur, une pression médiatique ou sportive qui est particulièrement importante. Est-ce que pour un jeune coureur, pour qui tout ça est nouveau, est-ce que vous l'accompagnez particulièrement dans ce genre de moment, ou comment vous faites ce genre de choses ?
Bah, moi, de notre époque, ça existait déjà, les cours de communication, les appuis, les attachés de presse. Enfin, je crois que c'est pas spécialement nouveau. Effectivement, il y a une médiatisation, et tant mieux, parce que sinon, on aurait du mal à vivre. Mais les coureurs sont quand même aujourd'hui très responsables et très capables. Après, les équipes, on apporte effectivement avec nos moyens, les soutiens nécessaires. Mais c'est vrai que ce qui est peut-être différent aujourd'hui de notre époque, c'est tout ce qui est réseaux sociaux, où là, il faut être très très vigilant et bien les cadrer par rapport à ça, parce que ce qu'ils pensent dire à des amis
par une vitesse
phénoménale, et des fois des choses qui sont dites d'une manière spontanée, reprises par des médias qui aujourd'hui ne vérifient plus forcément leurs informations, et l'interprétation en est faite d'une manière assez dantesque. Donc c'est plutôt là-dessus qu'il faut les mettre en garde, mais globalement les choses sont plutôt bien faites.
Merci Stéphane, ce sera le dernier mot, cette émission touche à sa fin. Le tirage au sort pour le gain du vélo Rock Rider a eu lieu et c'est Isabelle Glidic qui a remporté à la fois le vélo Rock Rider 5-1, également le maillot vert PMU, une gourde PMU ainsi qu'un chèque de 100 € pour acheter des accessoires cyclistes. D'autres lots ont été tirés au sort et la liste sera affichée au Cube Café à Lilia, donc les vainqueurs où tous les participants pourront venir voir s'ils ont remporté quelque chose. Merci à tous d'être venus sur le plateau pour partager vos analyses et débattre. Merci également à tous de nous avoir écoutés. Nous remercions le Cube Café d'Olivier Berthelot et de Renato Bisson, ainsi qu'André Lesven, le maire de Plouguerneau, qui nous ont accueillis aujourd'hui, ainsi que Cédric Lefkovitch pour le jingle. Cette émission sera réécoutée en podcast au cours de la semaine prochaine sur les sites lncpro.fr et velowire.com. A bientôt sur LNC Radio.
Merci.
Richard Bianchi est le roi du Ventoux, il a résisté jusqu'au bout, 200 km d'échappée, il s'avoue, regardez Bianchi.
Eh bien la voilà la première victoire française, on n'aurait jamais imaginé ça à l'Alpe d'Huez.
Fou de bonheur, Laurent Jalabert, 198 km d'échappée, bravo et merci.
Pierre Boigny, Arnaud démarre, ou Nasser Boigny, Boigny démarre 2, Nasser Boigny est le nouveau champion de France. We'll be right back.